Le journal Thomas Cluzel, bonjour.
Bonjour Olivia, bonjour à toutes et à tous. Le guide suprême iranien a exclu ce matin toute négociation avec Washington, et ce alors que le président américain s'était dit, lui, disposé à rencontrer son homologue iranien fin septembre en marge de l'Assemblée générale des Nations Unies. Sauf qu'entre-temps, Washington a menacé Téhéran à la suite des attaques perpétrées ce week-end contre des installations pétrolières saoudiennes. Et puis après leur flambée de la veille, les cours du brut peinent encore à refluer ce matin, n'affichant qu'un très léger recul. Invité de la rédaction dans une dizaine de minutes, Francis Duzeux, président de l'Union française des industries pétrolières.
Dans votre journal également, plus de 6 millions d'Israéliens sont appelés aux urnes aujourd'hui pour de nouvelles législatives anticipées.
Oui, un scrutin en forme de plébiscite pour ou contre le Premier ministre sortant Benjamin Netanyahou.
En France, les propos d'Emmanuel Macron hier soir appelant à regarder en face le dossier de l'immigration n'auront pas tardé à susciter les commentaires de l'opposition.
Et quand la gauche fustige ce matin des propos populistes et dénonce les visées électoralistes du chef de l'État à droite, le Rassemblement national et les Républicains réclament eux des actes tangibles. Enfin, le nouveau plan du gouvernement contre le trafic de stupéfiants doit être dévoilé ce matin à Marseille, avec à la clé une très attendue réforme de l'office anti-stup. Et puis à 12h55, Olivia, ce sera la grande table des idées.
Avec notre invité, le journaliste Piotr Smolar, 5 ans correspondant du Monde en Israël. Il revient à la fois sur sa propre identité dans ce livre intitulé « Mauvais juif », mais aussi sur la montée des tensions identitaires et la montée de l'intolérance dans ce pays, donc qu'il a ausculté.
Merci et à tout à l'heure. Même si certains jugeront sans doute que les frappes de ce week-end contre des installations pétrolières saoudiennes ne sont au fond qu'un nouvel épisode dans ce qui constitue déjà une guerre par procuration entre l'Iran chiite d'un côté et l'Arabie saoudite sunnite de l'autre, alliée des États-Unis, il n'en demeure pas moins que ce matin encore, le mystère continue donc d'envelopper ces attaques visant directement les capacités de production du royaume wahhabite. Hier, en dépit de l'affirmation de l'Arabie saoudite selon laquelle les armes utilisées étaient iraniennes, l'administration américaine n'est pas allée pour sa part jusqu'à accuser directement le régime de Téhéran d'avoir mené cette opération depuis son propre sol. Pour autant, l'une des questions les plus pressantes ce matin reste bien de savoir si ces attaques sont susceptibles de déclencher une riposte militaire. Alors jusqu'à présent, Donald Trump a été relativement clair sur le fait qu'il ne voulait pas d'une guerre directe avec la République islamique, d'autant moins en pleine campagne de réélection. Et d'ailleurs, le départ la semaine dernière du conseiller à la sécurité nationale, John Bolton, le faucon le plus extrême de l'administration américaine, laissait entendre que le chef de la Maison-Blanche comptait plutôt donner effectivement une chance à la voie diplomatique. Sauf que ce matin, l'Iran a fait savoir qu'elle n'ouvrirait jamais de négociations bilatérales avec les États-Unis. Tout juste la République islamique, se dit-elle, prête à engager des discussions multilatérales, à la condition toutefois que Washington applique de nouveau l'accord de 2015 sur son programme nucléaire. Christian Chéneau, bonjour.
Bonjour.
Alors, au vu des derniers développements, on a le sentiment, Christian, que le président américain, qui, rappelons-le, a lui-même déclenché cette crise en décidant de se retirer unilatéralement de l'accord sur le nucléaire iranien, a perdu aujourd'hui toute capacité à la contrôler.
Écoutez, Donald Trump est un peu coincé parce que, vous l'avez dit, il ne souhaite pas la guerre avec l'Iran et en même temps, il veut mettre à genoux économiquement la République islamique. Washington a certes annoncé préparer une riposte en coordination avec l'Arabie saoudite, mais pour frapper quel objectif et où ? Difficile de bombarder directement l'Iran, ce serait une déclaration de guerre qui entraînerait des représailles de Téhéran qui serait alors en état de légitime défense et pour le coup l'embrasement tant redouté deviendrait alors réalité. En revanche, les Américains peuvent frapper des intérêts iraniens et des alliés de Téhéran dans la région. D'abord au Yémen, contre les rebelles houthis qui ont revendiqué l'attaque de drones contre les installations pétrolières saoudiennes. La cible pourrait être les milices chiites pro-iraniennes en Irak, qui sont très actives, ou encore la présence militaire iranienne en Syrie. Mais au final, les options militaires américaines sont assez limitées. En revanche, l'étranglement économique de l'Iran va continuer de plus belle pour l'empêcher d'exporter son pétrole.
Alors face à ce qui apparaît comme l'échec de la stratégie de pression maximale de Donald Trump, comment l'Iran manœuvre-t-elle aujourd'hui, Christian ?
Bah écoutez, l'Iran a choisi d'allumer des contre-feux pour complexifier encore un peu plus la crise sur le dossier du nucléaire qui est au cœur des tensions. Téhéran a choisi l'option d'une dégradation progressive et calculée de l'accord de Vienne de 2015 pour forcer les Européens à prendre leurs responsabilités. ce que fait Emmanuel Macron, qui joue les médiateurs entre Donald Trump et Hassan Rouhani pour éviter que la situation ne dérape vraiment. La guerre des pétroliers dans le Golfe Persique fait aussi partie de cette stratégie de la tension. Les passes d'Aran, les gardiens de la révolution harcèlent à bord de leurs vedettes rapides les tankers qui empruntent ce couloir maritime vital pour l'approvisionnement énergétique mondial. Il y a aussi les arrestations d'occidentaux ces derniers mois, comme l'universitaire franco-iranienne Fariba Adelra du Seri, ou dernièrement celle de 3 ressortissants australiens accusés aujourd'hui d'espionnage, comme si les Iraniens prenaient des gages dans leur grand marchandage avec les puissances occidentales. Évidemment, c'est une stratégie à très haut risque, car le moindre faux pas peut mettre le feu aux poudres.
Merci Christian Chesneau. Alors avant un hypothétique conflit armé, l'effet immédiat de ces attaques aura surtout concerné les prix du pétrole. Hier, le cours du Brent de la mer du Nord, référence sur le marché mondial, a d'abord grimpé de 18%, ce qui n'était pas arrivé depuis la première guerre du Golfe, avant finalement de se stabiliser. Il n'empêche, certains estiment déjà que le prix du baril pourrait à moyen terme s'envoler jusqu'à 100 $. Et c'est ainsi notamment que le gouvernement français a demandé ce matin aux pétroliers une certaine modération quant à la possible hausse des prix du carburant. Et pour en parler avec nous, invité de la rédaction, Francis Duseux, président de l'Union française des industries pétrolières. Bonjour monsieur.
Bonjour.
Et à mes côtés pour vous interroger, Anne-Laure Jumet. Bonjour Anne-Laure.
Bonjour.
Première question, monsieur Duseux, elle est toute simple. Y a-t-il des raisons aujourd'hui de paniquer ?
Non, pas du tout. Comme vous l'avez très bien décrit, c'est quand même un acte majeur, parce que 5,7 millions de barils jour de réduction de production depuis samedi, c'est tout à fait conséquent. Le marché s'était rééquilibré récemment grâce à un accord entre la Russie et l'OPEP de coupure de la production de 1,2 million de barils jour. Donc vous voyez là, c'est quasiment 5 fois plus important. Donc il y a quand même des éléments apaisants. C'est le premier, je crois, c'est que l'Arabie Saoudite dispose de stocks importants. Elle a expliqué qu'elle a un mois d'exportation disponible dans des bacs qui sont en Arabie Saoudite, mais aussi en Europe, à Rotterdam. Donc ça devrait permettre de voir venir. Ce qui me paraît très important, c'est savoir combien de temps il va falloir pour réparer ces installations. Les premiers rapports que je vois, on parle plutôt de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois. Donc ça, c'est très important. Je suis surpris d'ailleurs qu'on n'ait aucune nouvelle depuis samedi, donc ça doit être compliqué.
On aura une prise de parole du ministre saoudien de l'énergie tout à l'heure, qui peut-être nous permettra d'y voir plus clair. Francis Duseux, est-ce que vous maintenez donc votre estimation d'un prix à la pompe qui va augmenter de 4 à 5 centimes d'euros dans les jours qui viennent ?
Oui, tout simplement, on a regardé ce qui s'est passé sur les marchés hier. Donc le pétrole, le matin, avait augmenté de 10%. Dans l'après-midi, il a même monté à 15%. Et les prix des produits finis qui servent de base pour l'établissement des prix à la pompe sur le marché de Rotterdam, le gazole et l'essence, avaient augmenté aussi de 10%. Il faut savoir que quand on paye 1,50 € le litre d'essence, vous avez 1 € de taxe et vous avez 50 centimes par litre de matière première, de coûts de raffinage et de coûts de distribution.
Donc c'est ce que vous répondez au gouvernement qui appelle les pétroliers à modérer les prix. On le disait, vous dites il faut baisser les taxes.
Non, vous savez, c'est un grand classique. Chaque fois qu'il y a une tension comme ça sur un marché ou une grève ou des problèmes dans les dépôts, on est appelé par le gouvernement qui nous dit modérer. Mais ceci dit, on a pu démontrer depuis assez longtemps maintenant que c'est un marché hyper réactif et très compétitif. Pourquoi ? C'est parce que le prix est établi par les grandes surfaces. Pour les grandes surfaces, l'essence est un prix d'appel. Si c'est pas cher au niveau de la station-service, c'est pas cher à l'intérieur du magasin. Donc ça fait longtemps que c'est comme ça.
Mais il faut quand même répercuter les hausses de prix.
Bien sûr. Mais ceci dit, ils travaillent avec une marge extrêmement faible. Et nous, on s'est aperçu au niveau des grandes marques que si on s'alignait pas à 1 ou 2 centimes près sur ces prix des grandes surfaces, on vendait plus grand-chose.
Donc vous dites au gouvernement, il faut baisser les taxes, c'est la seule solution pour modérer justement les prix dans cette période particulière.
C'est quelque chose, vous rappelez qu'au mois d'octobre, au moment de la naissance du problème des gilets jaunes, d'ailleurs, entre parenthèses, le prix du pétrole brut, il était à 78 $ le baril,
oui,
et même monté
plus élevé
à 82 à cette époque. Donc on est loin d'avoir atteint ces niveaux, hein, donc il faut garder un peu de calme. Ceci dit, notre marge nette, nous, en tant que distributeur d'essence, c'est 1 centime par litre, pas plus. Et ça a été démontré.
Et donc sur les taxes, Francis Duseux, vous ne répondez pas à la question.
Alors sur les taxes, écoutez, il y a eu deux choses qui ont été évoquées l'an dernier. La première, c'était une mise en place de la TICPP flottante, vous savez, qui a été mise en place par Monsieur Jospin.
Oui,
bon, c'était une usine à gaz, c'était compliqué, ça n'avait pas fait grand-chose. Par contre, je me rappelle très très bien que le gouvernement à l'époque avait dit, si jamais les prix s'envolent, le gouvernement saura ajuster les taxes pour que ça ne devienne pas un problème majeur de pouvoir d'achat.
À l'époque, là, vous parlez des gilets jaunes.
De Français.
Vous parlez voilà, de ce qu'avait dit Emmanuel Macron.
Le problème, c'est que dans les grandes villes, on peut trouver des moyens, le tramway, le bus, etc., le vélo, les trottinettes. Mais dès qu'on arrive dans des petites villes de province, et puis surtout en zone rurale, c'est impossible. Il n'y a pas de transport en commun, il n'y a pas beaucoup de bornes de rechargement. Donc, si vous voyez, il n'y a pas de moyen de substitution.
Donc vous aimeriez que le pouvoir politique reprenne la main et quand le prix du baril augmente fortement, effectivement, il trouve un mécanisme qui permette de limiter les hausses de taxes.
Je peux pas présager de ce qu'ils vont décider parce que l'État a besoin d'argent, mais je suis quand même assez persuadé que c'est tellement sensible pour les Français, et c'était démontré par le mouvement Gilets jaunes, que une réaction serait prise par le gouvernement en cas d'emballement. Mais on en est encore loin. Attendons de voir si vraiment ça perdure. D'ailleurs, vous avez vu que le marché s'était emballé hier, comme vous l'avez très bien décrit, mais aujourd'hui, ça bouge plus, ça baisse même légèrement. Donc attendons de voir la suite. Et pour l'instant, c'est pas vraiment une crise. Et puis, je vous rappelle quand même qu'au cas où ça devient tendu, on a 3 mois de stock de réserve.
En France.
De consommation. Ouais. En France. Et puis, dans la plupart des grands pays. Donc, si vous voulez, je crois qu'il faut un peu calmer le jeu. Il faut pas affoler les auditeurs. Suivre la situation. Bon, c'est un peu tendu. Mais quand même, 4 centimes, c'est dans le domaine courant. On était à ce niveau-là, au mois de mai. Donc, si
oui,
vous savez.
Mais en une seule fois, c'est quand même assez spectaculaire.
Oui, mais c'est d'un coup, voilà. D'habitude, c'est beaucoup, c'est progressif. Et comme vous l'avez très bien dit, on n'a jamais observé un mouvement de hausse des prix aussi violent en une journée depuis 1991.
Merci Francis Duceux, président, je le rappelle, de l'Union française des industries pétrolières, d'avoir répondu à notre invitation. Et merci également à Anne-Laure Jumet. Les Israéliens ont commencé à voter ce matin pour élire leurs députés. 5 mois seulement après un premier duel sans issue, l'alternative reste peu ou prou la même que lors du dernier scrutin, avec d'un côté le Likoud, le parti de droite de Benjamin Netanyahu, et de l'autre la coalition centriste bleu et blanc de Benny Gantz. Bibi ou Benny, pour l'heure, les sondages pronostiquent à nouveau un duel coriace, de sorte qu'une fois encore, c'est probablement la formation ultra-nationaliste de l'ancien ministre de la Défense, Avigdor Lieberman, qui pourrait se retrouver en position de faiseur de roi. Car au fond, la question aujourd'hui n'est pas tant de savoir qui de Netanyahou ou de Gantz aura le plus de sièges, mais lequel des deux sera en mesure d'atteindre par des alliances le nombre seuil de la majorité au Parlement. C'est véritablement ce jeu, parfois subtil, des alliances donc qui devrait déterminer le sort du prochain gouvernement. Notre envoyé spécial Omar Waman s'est rendu lui ce matin dans un bureau de vote de Tel Aviv, traditionnellement bastion de la gauche.
Dans ce bureau de vote au centre de Tel Aviv, les mines sont graves. Gabi, une 60aine d'années, sort le pas très lent.
But enough is enough.
Assez, c'est assez. Je veux le changement pour les jeunes. On ne veut pas que nos soldats meurent. On veut la paix, la paix, la paix. Je ne sais pas si Benny Gantz est bien, car il n'est pas un politicien. Mais je veux lui donner une chance.
Tel Aviv est une ville qui vote traditionnellement à gauche, où le rejet de Benjamin Netanyahou est palpable. Chéri, une des rares à sortir de cette école avec le sourire et le sentiment du devoir accompli.
Ça fait trop longtemps qu'il est au pouvoir. Benjamin Netanyahou n'a pas fait de bonnes choses. Il veut tout simplement rester au pouvoir. Il est donc temps de changer, car il n'y a que lui qui l'intéresse. Son seul objectif, c'est de tout faire pour rester au poste de Premier ministre. On ne l'aime pas et sa place est en prison.
Ce qui revient souvent dans les conversations à l'entrée de ce bureau de vote, ce sont les affaires de corruption qui pèsent sur la candidature de Benjamin Netanyahou.
On ne peut pas vivre avec quelqu'un qui n'est pas honnête, donc il est Premier ministre et tout. Ce n'est pas une vraie démocratie. Ça fait longtemps que Bibi il est là et il y a beaucoup de problèmes dans le pays.
Les premières tendances devraient être connues après la fermeture des bureaux de vote à 22h.
Un reportage à Tel Aviv signé Omar Waman, et je précise qu'effectivement ce scrutin est crucial pour Benjamin Netanyahou puisqu'il intervient un mois avant sa comparution devant la justice pour des affaires de corruption, d'abus de confiance et de malversation. Pour l'heure, il n'est ni inculpé ni donc condamné, mais une victoire électorale pourrait permettre à ses alliés de lui allouer une immunité, de sorte que s'il devait être réélu puis inculpé, eh bien Benjamin Netanyahou deviendrait le premier chef de gouvernement en exercice à connaître une telle avanie dans l'histoire de l'État hébreu. Les premiers résultats officiels publiés hier à l'issue du premier tour de la présidentielle en Tunisie confirment l'avance prise par les deux candidats hors système. Kais Saied, d'une part, un constitutionnaliste conservateur sans parti ni structure, et puis Nabil Karoui, d'autre part, un homme d'affaires actuellement derrière les barreaux. De quoi illustrer un possible chambardement total, pour le moins, de la scène politique en Tunisie, pays pionnier, je vous le rappelle, du printemps arabe. Le deuxième tour de scrutin est prévu le 13 octobre. En Afghanistan, un attentat suicide à proximité d'un meeting électoral du président Ashraf Ghani a fait au moins 24 morts et une trentaine de blessés ce matin. Une autre explosion a par ailleurs retenti dans le centre de Kaboul. En revanche, aucune information officielle n'est disponible dans l'immédiat sur d'éventuelles victimes. Aux États-Unis, les élus démocrates ont annoncé hier l'ouverture d'une enquête parlementaire visant la ministre des Transports, Helen Chao, l'un des rares membres encore présents depuis le début du mandat de Donald Trump, est soupçonné d'avoir profité de sa position pour promouvoir les intérêts d'une compagnie maritime appartenant à sa famille. Une enquête qui, au-delà de l'administration de Washington, pourrait avoir des répercussions aussi sur le parti républicain lui-même, puisque le mari de la ministre n'est autre que le leader du Sénat. L'audience est prévue pour durer 2 jours et l'affaire s'annonce aussi âpre entre les parties que complexe pour les juges européens qui mettront plusieurs mois à rendre leur décision. Depuis ce matin, le géant californien Apple est à Luxembourg où, devant la Cour de justice de l'Union européenne, il entend contester l'amende retentissante que lui a infligée la Commission il y a 3 ans, 13 milliards d'euros à rembourser au fisc irlandais qui, pendant des années, avait offert à la marque à la pomme des avantages fiscaux relevant, selon Bruxelles, d'une aide d'État illégale. Une analyse contestée donc aujourd'hui, non seulement par Apple, mais aussi l'Irlande, qui jusqu'à demain vont se défendre pied à pied. Les précisions de Louise Baudet.
Commission européenne 1, Apple 0. Score à l'issue du premier round engagé il y a 5 ans entre la commissaire à la concurrence Margrethe Vestager et la firme à la pomme. Au terme de 2 ans d'enquête, l'opiniâtre danoise a mis en lumière un système d'optimisation fiscale particulièrement performant. Pour faire simple, Apple a pendant 11 ans rapatrié en Irlande l'ensemble de ses revenus engrangés en Europe, en Afrique, au Moyen-Orient et en Inde. L'Irlande, où le régime fiscal est tel que le géant américain a quasiment échappé à l'impôt. Résultat, 13 milliards d'euros d'économie, une aide d'État illégale selon Margrethe Vestager. Version violemment contestée par Apple qui dénonce une décision politique ne reposant sur aucun fondement juridique. Le groupe estime en effet que c'est aux États-Unis, là où il investit en recherche et donc créer de la richesse, qu'il doit payer ses impôts. Cette ardoise-là a donc été consciencieusement provisionnée et payée depuis au fisc américain. Bref, Apple n'a rien à se reprocher. Alors à qui les juges vont-ils donner raison? On ne le saura pas avant plusieurs mois, mais l'affaire est hautement sensible dans un contexte commercial tendu entre l'Union européenne et les États-Unis. Donald Trump reproche aux Européens de s'en prendre aux géants technologiques américains. D'ailleurs, il déteste cordialement Margrethe Vestager, cette tax lady qui a construit sa réputation de dur à cuire en mettant à l'amende les GAFA. Une tax lady qui a depuis pris du galon. Elle est vice-présidente exécutive de la nouvelle commission.
Le Parlement européen a voté ce matin la nomination de Christine Lagarde à la tête de la BCE. Alors le passage de témoin avec son prédécesseur Mario Draghi, lequel aura effectué 8 années de mandat tumultueux, ne s'effectuera en réalité que fin octobre. Mais l'ambiance s'annonce d'ores et déjà électrique après que la relance la semaine dernière du vaste programme de rachat de dettes de la Banque Centrale Européenne a déclenché une véritable fronde ouverte au sein de l'Institut Monétaire, allant même jusqu'à mettre en jeu sa crédibilité. Et puis autre polémique plus immédiate, celle-ci. Les eurodéputés ont donc approuvé ce matin en session plénière la nomination de Christine Lagarde, laquelle n'était pas présente dans l'hémicycle, ce qui a eu le don d'agacer passablement la députée européenne de la France Insoumise, Manon Aubry, au micro d'Angélique Bouin.
Si vous voulez, là on est en train de nommer la présidente de la Banque Centrale Européenne, qui a une influence sur la politique monétaire, qui a elle-même un rôle majeur dans la lutte contre les inégalités et dans la lutte contre le changement climatique. Et pour ça, on a une candidate unique qui n'est pas présente en session plénière pour débattre de l'orientation de la politique monétaire, et les eurodéputés ont un rôle extrêmement mineur dans l'influence de la politique monétaire. Ça commence à faire beaucoup, sachant qu'on est les seuls représentants des peuples dans les institutions européennes.
Alors elle va être la patronne de la BCE. Quels sont vos questionnements par rapport à cette mission qui lui est confiée ?
Nos questionnements sont de deux ordres. Sur la question des inégalités d'abord, c'est un sujet qu'elle a complètement oublié, alors qu'on sait qu'il lui tenait à cœur quand elle était au FMI. Donc là, on lui demande de réorienter la politique monétaire pour qu'elle serve l'économie réelle, au contraire de ce qui a été fait avec les plus de 2000 milliards réinvestis dans les banques. Et d'autre part, sur la question du climat, qui est aujourd'hui un sujet à la mode dans les institutions européennes, mais qui ne peut s'accommoder de discours. Et ce qu'on lui demande très clairement, c'est d'arrêter le financement des entreprises et des énergies polluantes et d'orienter le marché vers le soutien aux actifs verts qui sont respectueux de l'environnement plutôt que ceux qui les détruisent. Comptez sur nous avec un mauvais jeu de mots pour maintenir la garde dans les prochains mois et les prochaines années pour lui rappeler.
L'eurodéputée de la France insoumise Manon Aubry, elle répondait à Angélique Bouin. Nouvel épisode dans la saga chaotique du Brexit. La Cour suprême britannique doit se prononcer aujourd'hui sur la légalité de la suspension controversée du Parlement voulue par le Premier ministre Boris Johnson et vivement critiquée par ses opposants, lesquels espèrent ainsi être autorisés à retourner siéger au plus vite au Parlement pour empêcher un no deal. Retraite municipale, mais aussi immigration, hier soir, en s'invitant à une réunion mêlant à la fois membres du gouvernement, députés et sénateurs de la majorité autour du Premier ministre, Emmanuel Macron a replacé le sujet éruptif de l'immigration au cœur du débat politique de cette rentrée. À 15 jours d'un débat parlementaire prévu sur ce thème, le chef de l'État a réaffirmé son attachement au principe du droit d'asile, mais dénoncé des demandes d'asile abusives pour, a-t-il dit, éviter d'être un parti bourgeois qui ignore l'opinion de classes populaires séduites par l'extrême droite. Il n'en fallait pas davantage pour que l'opposition dénonce aussitôt les visées électoralistes d'Emmanuel Macron, la gauche fustigeant des propos populistes, tandis que les Républicains et le Rassemblement National réclament des actes tangibles. Alors pourquoi le président Emmanuel Macron a-t-il choisi de repasser donc à l'offensive sur l'immigration ? Élément de réponse avec Stéphane Robert.
Pour Emmanuel Macron, l'immigration est une question dont la majorité et son gouvernement doivent s'emparer dans les prochains mois, et ça pour deux raisons. D'abord parce que selon lui, c'est une des causes du malaise des classes populaires. Il a expliqué hier soir devant les parlementaires que ce ne sont pas les bourgeois qui croisent l'immigration, ce sont les territoires les plus pauvres qui en sont le réceptacle. Ensuite, le chef de l'État estime qu'il ne faut pas abandonner cette question au Rassemblement national et à Marine Le Pen. Dans son entourage, on explique qu'une éventuelle réélection en 2022 ne passera pas seulement par une amélioration de la situation économique du pays. Les questions environnementales sont également capitales et puis la question identitaire que recoupe le phénomène migratoire. Emmanuel Macron résume ça en ces termes. Il faut prendre en compte l'insécurité culturelle ressentie par une partie de la population, reprenant le concept formulé par l'universitaire Laurent Bouvet. Et il a demandé que se tiennent deux débats sur l'immigration à l'Assemblée nationale et au Sénat en cette rentrée. Débats qui auront lieu les 30 septembre et 2 octobre prochains. Il s'agit pour lui de remettre sur la place publique une question dont il sait qu'elle divise sa majorité. Une partie des députés La République En Marche s'était abstenue lors du vote de la loi Asile-Immigration en 2018. Emmanuel Macron s'était à nouveau emparé de la question lors de la crise des Gilets jaunes. Il avait voulu en faire l'un des 5 thèmes du grand débat avant très vite de faire machine arrière face au malaise exprimé par une partie des marcheurs. Mais à l'heure de l'acte 2 de son quinquennat, il a fait savoir aux principaux responsables de la majorité qu'il n'entendait pas s'exonérer de cette question. C'était au cours d'un dîner début septembre, car c'est selon lui un défi qui va durer et qu'il sera nécessaire d'affronter.
Le nouveau plan du gouvernement contre le trafic de stupéfiants doit être dévoilé ce matin à Marseille. Le choix de la cité phocéenne, théâtre de réguliers et sanglants règlements de compte, ne tient évidemment pas au hasard. Le week-end dernier encore, la ville a enregistré une dizaine de personnes blessées par balles. Alors au total, pas moins de 4 ministres ont fait le déplacement pour révéler donc ce plan en gestation depuis plus d'un an, avec à la clé une très attendue réforme de l'office anti-stup, même si pour l'heure les syndicats de police, comme les agents, se montrent plutôt méfiants. Les précisions à Marseille d'Olivier Martoc.
Les policiers marseillais ont expérimenté l'approche globale inter-service avec un support du fisc et de la douane. Le préfet de police de l'époque était Laurent Nunez. Mais selon Rudy Mana, le responsable du syndicat Alliance, les résultats ne seraient pas probants.
Sur le terrain, déjà, on peut constater que ça n'a pas donné de vrais résultats, puisque le trafic de stup à Marseille est de pire en pire. Il n'y a pas eu une évolution remarquable pendant son passage. Alors, ces méthodes globales, on peut dire que c'est la communication politique. La difficulté, c'est de le mettre en application sur le terrain. On est dans des directions complètement différentes, qui ont des orientations complètement différentes, avec des directeurs centraux complètement différents. Jumeler tout ça, c'est pas si simple que ça.
Pas si simple, c'est exactement ce que pense Fazia Amiche, élue des quartiers nord sur les listes Godin, mais surtout, président présidente de CAP, qui travaille sur l'éducation dans les cités.
Non, la répression, ça n'a jamais fonctionné, ça ne fonctionnera pas. Le trafic de drogue, ça croît d'année en année. La précarité touche énormément de familles. Tous ces jeunes essaient de trouver les moyens de s'en sortir. C'est aussi une économie souterraine florissante.
Cette économie souterraine générée dans certaines cités où le chômage frise les 80%, jusqu'à 50 000 euros par jour, une manne pour de nombreux jeunes, mais aussi leurs familles.
La Cour de cassation a fixé au 1er octobre sa décision sur l'ultime recours de Nicolas Sarkozy pour échapper à son procès pour les dépenses excessives de sa campagne présidentielle malheureuse de 2012. L'ancien chef d'État est poursuivi pour avoir dépassé le seuil de dépenses électorales de plus de 20 millions d'euros, un délit passible d'un an de prison et de 3 750 euros d'amende. On termine avec un mot du temps pour aujourd'hui. Estival au sud, globalement ensoleillé au nord, même si quelques bancs nuageux résistants traîneront de la Bretagne au centre jusqu'à la Bourgogne et même l'Alsace. Quant aux températures, elles afficheront entre 18 et 35 degrés. C'est la fin de ce journal. Il était réalisé par Nicolas Paumet. Et à 18h, vous avez rendez-vous avec Aurélie Kiefer pour le prochain journal de la rédaction.